Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter le numéro 229 de Raison Présente qui sort ce mois-ci et que vous pourrez vous procurer en le commandant sur le site de l'Union rationaliste. L'occasion nous est donc donnée aujourd'hui de faire connaître le travail que nous faisons dans cette revue qui, comme toutes les revues, a besoin et de lecteurs et d'abonnés. Il est très facile de s'abonner à Raison Présente, il suffit d'aller sur le site de l'Union rationaliste et pour 60 euros, 4 numéros de Raison Présente vous seront adressés et je fais de la réclame. Pour 50 euros seulement, si vous êtes aussi adhérent de l'Union rationaliste, cette association antifasciste pour la défense des sciences et de la rationalité, qui lutte à son niveau contre la désinformation, aussi bien scientifique qu'idéologique, et qui a donc aujourd'hui, comme jamais, besoin de militants et de forces vives. J'en viens donc à ce numéro 229 intitulé « Rire malgré tout », et avec moi, pour en parler dans ce studio, un des trois coordonnateurs, Jean-Michel Beignet. Bonjour.
Bonjour.
Professeur émérite de philosophie à Sorbonne Université, comme on dit aujourd'hui, spécialiste des nouvelles technologies, membre du comité de rédaction de Raison Présente depuis 1979, entre autres parce que Jean-Michel est aussi au comité de rédaction de bien d'autres revues et avec nous, Diane Lutouet, professeure agrégée de philosophie au lycée international de l'Est parisien. Diane Lutouet, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Alors, peut-être première question à vous Jean-Michel. Pourquoi ce numéro et pourquoi ce beau thème, rire malgré tout ?
Eh bien, je pense que on avait besoin, au sein du comité de rédaction, d'assurer que nous ne cédions pas à l'esprit de sérieux avec lequel on compromet souvent le rationalisme. L'esprit de sérieux, c'est ce qui caractérise les dogmatismes, c'est ce qui caractérise les fanatismes. On a eu besoin, je crois, d'interroger la connivence entre la raison et le rire pour se démarquer très très clairement de ces perversions que sont le dogmatisme et le fanatisme. Et puis, d'un point de vue un peu culturel large, il était bon que le rationalisme que nous défendons se démarque du préjugé chrétien qui dévalue le rire depuis toujours. Jésus n'a jamais ri, rapporte-t-on régulièrement. Dans le numéro, David Le Breton, interrogé par vous, évoque le nom de la rose, ce magistral film et roman d'Umberto Eco qui porte précisément sur l'attitude disqualifiante à l'égard du rire qu'adopte l'Église. Le préjugé, il est chrétien, mais il est philosophique aussi, d'une manière générale, parce que le platonisme n'a pas non plus donné des gages réels au rire. Bref, on a eu besoin de se mettre un petit peu au clair. Ça fait partie de la gestation du numéro. Le numéro ne porte pas sur ces points exclusifs. On a un bel article dans ce numéro qui fait un petit peu la généalogie de notre problématique. C'est l'article de Patrick Brunel qui met en présence Démocrite et Héraclite. Démocrite qui rit, Héraclite qui pleure. Il raconte très très bien comment Démocrite était pris pour un fou parce qu'il n'arrêtait pas de rire, alors même on va envoyer Hippocrate pour enquêter auprès de Démocrite pour découvrir que le rire de Démocrite est un rire qui cherche à dissoudre précisément la folie des autres. Et donc, il y a toute une dialectique entre la folie et le rire qui s'installe là, que représentera également très très bien Erasme dans l'éloge de la folie, hein, où le rire est magnifié comme l'élément qui permet précisément de fustiger ces fous que sont les gens affairés, comme dit Erasme, les gens qui ne prennent pas le temps de rire parce que ils sont immergés dans des activités stériles, idiotes, enfin, bon. Je crois que c'est ça un petit peu qui nous a porté, hein, l'idée que le rire est susceptible de dénoncer la folie triste. Et puis bon, ça culmine, et c'est votre article qui le porte, ça culmine avec Nietzsche, le rire de Nietzsche, hein, qui est le rire souverain, hein, celui qui précisément se moque de cet affairement que j'évoquais tout à l'heure, qui se moque de cette espèce d'absence de distance, hein, que nous mettons à l'égard des choses, et qui identifie le rire dans l'enfant, dans l'attitude de l'enfant, qui est innocence et oubli, qui est celui qui, dans la tradition précisément héraclitéenne que j'évoquais tout à l'heure, joue avec le trictrac, enfin joue dans une manière de répétition. Donc, je crois que si on avait réussi cela, on aurait mis en évidence ce potentiel subversif qu'il y a dans le rire. Le rire est un adjuvant pour le rationalisme lorsque on le comprend bien, hein, comme instrument d'engagement dans le siècle.
Super. Diane Lutouet, vous avez choisi d'écrire sur l'humour juif et vous avez intitulé votre article, qui est aussi un hommage à votre grand-oncle, « Urgence de l'humour juif ». Alors, pourquoi y a-t-il urgence aujourd'hui ?
Alors, pourquoi cette urgence ? Cette urgence, elle est liée à la tonalité désespérée de l'époque, et notamment le désespoir lié à la période post-7 octobre 2023. Donc, peut-être la première chose à penser, c'est l'impossibilité de rire, ou l'absence d'envie de rire également. Il s'agit de penser aussi la proximité entre le désespoir et l'humour et le rire. Assez immédiatement, on comprend cette interaction qui peut y avoir entre le désespoir et le rire, parce que c'est assez connu que la plupart des très grands humoristes, Pierre Dac par exemple, pour citer un des grands représentants de l'humour juif en France, était particulièrement mélancolique, comme beaucoup d'autres. Et donc ce qu'on comprend assez aisément, c'est que étant mélancolique, connaissant le désespoir, il s'agit de connaître aussi des moyens pour apaiser ce désespoir. Donc là, je reprends exprès la formulation qu'on trouve chez Spinoza, puisqu'il a été dit qu'il y avait aussi un préjugé philosophique contre le rire, à l'exception de Spinoza, dans l'éthique, où justement... alors certes, il ne faudrait pas ni pleurer ni se moquer, mais il s'agirait de comprendre, et donc en plaisantant, il y a aussi une possibilité de changer de place et de comprendre mieux, de changer de perspective et de comprendre mieux.
Comme s'il y avait une attitude heuristique du rire.
Oui. Une attitude heuristique, et alors ici, en tout cas chez Spinoza, dans le livre 4 de l'éthique, un moyen de sortir du désespoir, d'apaiser le désespoir. On voit pas pourquoi on interdirait d'apaiser le désespoir par le rire ou par la plaisanterie. Pourquoi on interdirait de manger si on a faim, etc. Seule une triste et superstition l'interdirait. Donc Spinoza s'inscrit en faux contre cette tendance-là qui existe dans beaucoup de religions et de dérives superstitieuses. Déjà sortir de ce désespoir, et peut-être donc pourquoi y a-t-il urgence, pour en sortir et pouvoir finalement agir, parce qu'il y a fort à faire. Donc ça, ce serait peut-être la première
raison de l'urgence.
Voilà, la première raison de l'urgence, apaiser le désespoir pour pouvoir ensuite agir. Et puis l'autre, j'ai commencé à le dire un tout petit peu, il s'agit de se laisser bousculer aussi par le rire et donc changer de perspective. Donc cet aspect-là, peut-être qu'on le trouve un peu moins chez Spinoza et davantage chez Freud, même s'il y a aussi une filiation évidemment entre les deux. Et donc c'est vrai que en allant regarder le texte sur le vide, donc alors le vide c'est traduit en français, yes. le mot d'esprit ou le trait d'esprit, le mot d'esprit et sa relation avec l'inconscient, on trouve des analyses extrêmement claires sur notamment la distinction entre le comique où la situation est duelle, avec par exemple là pour reprendre l'exemple de Bergson, donc une personne qui chute et l'autre qui regarde la personne chuter. Donc la position, la situation est duelle. Il y a une victime qui est moquée et une autre personne qui rit et se moque. Et ce qu'explique très simplement Freud, c'est que dans l'humour, il y a autre chose. C'est pas seulement le comique, c'est la possibilité aussi de faire un trait d'esprit. Et pour qu'il y ait un trait d'esprit, il faut le dire. Il faut passer par le symbolique et le langage. Et donc il faut qu'il y ait une position tierce. Donc c'est ça qui m'a pas mal intéressée pour comprendre ce que ça peut nous faire. Finalement, il y a une dynamique du rire parce que justement la possibilité qui nous est donnée, c'est de changer de place et de changer de perspective. Et ça, il me semble qu'on en a particulièrement besoin en ce moment. Alors il y a aussi, cela est aussi pensé par un autre écrivain mais qui n'est pas philosophe et qui est Romain Gary dans La Danse de Gengis Khan, justement, ce qui est pensé de manière fictive. C'est justement à l'intérieur du même esprit la victime et le bourreau. Donc c'est ça aussi qui peut être assez dérangeant en lisant le texte de Romain Gary qui s'appelle La Danse de Gengis Khan. Mais il me semble que ça aussi, donc Gengis Khan, pour le dire très rapidement, c'est un comique juif qui est mort pendant la Shoah et qui a été donc fusillé dans une fosse avec d'autres compagnons. Et juste pour donner la tonalité un peu de cet humour très particulier qui devient un humour noir chez Romain Gary, au dernier moment, avant d'être fusillé, il n'a pas le temps de faire une plaisanterie, il a juste le temps de faire ce qu'il appelle un effet visuel. Et donc, cet effet visuel consiste à, je cite, montrer son cul, fin de citation. Mm-hmm. Donc c'est pour donner cette tonalité-là, qui en effet est assez différente du reste du type d'humour un peu plus tendre qu'on trouve chez Romain Gary. Et finalement, ce comique juif qu'on appelle Gengis Khan va devenir un fantôme, un dibouk, donc fantôme issu du folklore juif, et va venir habiter l'esprit du commandant SS Schatz qu'il avait fusillé. Et c'est de cette façon-là que les deux se retrouvent à l'intérieur du même esprit.
Mm-hmm. Merci. Vous avez cité Diane Lutouet, Bergson et ce fameux exemple qui illustre l'humour. Je rappelle que dans le numéro, Frédéric Worms écrit un très bel article sur l'ambivalence de la vie dans le rire de Bergson, un des nombreux articles. Alors, Jean-Michel Beignet, votre article « Rire avec et contre les objets » s'ouvre par un hommage à Jacques Tati. Est-ce que vous pourriez...
Oui, peut-être qu'avant, j'aurais voulu... Non, on n'a pas le temps. Bon. Oui, parce que bon, j'étais tout à fait intéressé d'entendre parler du désespoir. J'avais envie de citer Woody Allen qui dit ceci. « L'humanité est à un croisement. Un chemin mène au désespoir, l'autre à l'extinction totale. Espérons que nous aurons la sagesse de savoir choisir. »
Entre le désespoir et l'extinction
totale. Voilà. Oui. Pour dire qu'effectivement, l'humour a affaire avec...
Le tragique.
Avec le tragique. Hein, et ça, on n'a pas voulu l'évacuer sans ne pas faire droit à ce que l'humour a à faire avec le rire proprement dit. Alors oui, Jacques Tati, j'ai eu souci dans... mon papier de convoquer Jacques Tati parce que je me suis dit, et c'est une évidence, que nous avons affaire aux objets, au quotidien. Nous sommes une civilisation qui est immergée dans des objets, et ces objets qui occupent une si grande place, ils sont souvent matière à désespoir. Ils sont souvent la raison qui nous font désespérer. Et j'ai voulu examiner la chose de manière un petit peu large et puis légère en même temps. Et Jacques Tati m'a paru très très caractéristique de cette rencontre, ce télescopage qui est le nôtre avec les objets. Et en même temps, il fustige l'attachement risible qui est le nôtre aux objets. Et quand je parle d'objets, je parle de quantité de choses. Hein, notre voiture, notre télévision, notre téléphone, etc. Et je voulais aller aussi un petit peu plus loin et essayer de m'expliquer avec cette fascination qu'exerce sur nous le développement de ces objets particuliers qu'on appelle les objets intelligents. Et j'ai posé la question de savoir simplement s'il y a une faculté de rire possible chez les robots. Hein, et si tel n'était pas le cas, est-ce que nous n'aurions pas raison de nous réjouir du fait que les machines soient complètement insensibles à l'humour et que par conséquent, le rire serait bien encore notre propre. L'humour serait bien encore notre privilège et nous pourrions valablement l'objecter aux machines, si sophistiquées qu'elles soient.
C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Diane Lutouet, Jean-Michel Beignet, je vous remercie.
Merci.
Merci.
Dans ce numéro 229, le directeur de la revue Guy Bruit inaugure par un hommage à Gabriel Gaho, ce numéro, Gabriel Gaho était un membre éminent de l'Union rationaliste. Son sourire malicieux et son regard intelligent éclairent le portrait liminaire qu'on pourra trouver dans la revue. Et deux articles font suite ou répondent au numéro précédent de Raison présente. Tout est-il souhaitable en recherche ? Un article de Pierre Joliot et un article co-signé par Michèle Leduc, co-rédactrice en chef de Raison présente, article qui répondent à un article précédent pour montrer l'importance et la force du débat. Je vous dis au mois prochain et je remercie Guillaume Ficheux et Luc-Jean Reynaud qui ont rendu possible cette émission.